Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous. Bon mardi 24 mars 2026. J'espère que vous êtes de bonne humeur. En tout cas, ce soleil qui brille dans la grande région métropolitaine fait du bien au moral. Comment ça va, Mathieu Tessier?
J'ai envie de manger du chocolat.
Ah oui? Ah, je pensais que vous alliez me dire de la tire d'érable.
Ah parce ben ça, que... je mange toujours de l'érable. Fait que ça, c'est pas nouveau.
Ah oui? Ah oui, pour vrai?
Oui, dans mon café le matin.
OK.
Une gourzoute de sirop d'érable dans mon Kafka.
Une quoi? Une gourzoute.
Une gourzoute, disait ma tante.
Bon. Oui, oui. Vous, là, j'aimerais ça rencontrer votre famille. Bien là, j'imagine qu'un jour, vous allez écrire une saga familiale.
Peut-être pas une saga.
Parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment intéressants et qui nous donnent envie de mieux les connaître. Alors, on est ensemble jusqu'à 11 heures et aujourd'hui, nous aurons la chronique économie en compagnie de Michel Poitevin, qui sera un petit peu plus tôt avec nous ce matin autour de 9h45 pour nous parler du prix de l'essence, entre autres, et des comportements des gouvernements en général. Est-ce qu'il faut être plus actif, réactif ou non? Michel nous donnera un peu plus d'informations là-dessus et surtout son point de vue. On aura également une entrevue avec Raphaëlle Tousignan, qui est para-hockeyeuse, animatrice confidente de la série « L'âge des possibles » qui prend son envol dès ce soir sur Ami Télé. Et il y aura Romain qui viendra nous visiter en studio, un des ados qui participe à cette série. Romain qui était un adolescent en situation de handicap. Et à la chronique livre, Anne-Marie Aubin a lu deux livres, deux titres parmi les finalistes au prix des libraires du Québec, catégorie roman. L'embouchure par Myriam de Gaspé et Foule monstre de Simon Brousseau. Alors, c'est pas mal le menu d'aujourd'hui. Avec de la belle musique, on commence avec une reprise d'un grand succès de Francis Cabrel par Dominique Fils-Aimé.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défait, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît, il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis faite. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, en les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie, celle d'après, tu seras mon unique projet. je m'en irai poser des portraits sur tous les plafonds, tous les palais, tous les murs que je trouverai. Juste en dessous, j'écrirai que seule la lumière pourrait. Mes doigts pris sur tes poignets.
Très belle reprise de Francis Cabrel, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » par Dominique Fils-Aimé, une chanson qu'on trouve sur son plus récent album. Très triste nouvelle, on en parle partout ce matin et ce depuis hier. Collision à La Guardia, stop, 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 l'appel désespéré d'un contrôleur aérien n'a rien pu y faire. Un jeune pilote québécois et son partenaire ontarien ont perdu la vie dimanche soir en atterrissant sur une piste qui traversait un camion de pompiers. Que traversait un camion de pompiers? Ça a été hyper violent. Des passagers racontent le cauchemar qu'ils ont vécu. Comment une chose pareille a-t-elle pu survenir? On est dans l'enquête, on n'a pas toutes les réponses. Il nous a sauvés, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, qui signent le texte dans la presse d'aujourd'hui. Quelques secondes après l'atterrissage du vol 8646 d'Air Canada sur le tarmac de l'aéroport de La Guardia, Clément Lelièvre a vu le cockpit de l'avion disparaître. J'étais comme ça, tranquille sur mon siège, en train de regarder devant, et d'un coup, il y a eu un freinage intense, raconte le passager du siège 21F. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Tout s'est détruit devant. Attablé dans un bar de l'Upper East Side à Manhattan, l'homme de 36 ans était encore sur le coup de l'adrénaline. Il souriait, il pleurait, mais surtout, il avait l'impression d'avoir reçu une seconde chance. « On est vivant, dit-il au sujet de son groupe de passagers. On est tous liés à la vie. » Le Français établi dans la grosse pomme est très reconnaissant envers le pilote québécois Antoine Forêt, qui a tragiquement perdu la vie dans l'accident, mais qui a su freiner à temps pour minimiser la force de l'impact, croit-il. Il nous a sauvés. Avoir le réflexe de freiner comme ça quand tout va vite, c'était un vrai aviateur. Une agente de bord, Solange Tremblay, a été blessée gravement après avoir été éjectée de l'appareil alors qu'elle était toujours attachée à son siège. Franchement, c'est un coup de fou. « Parce que je l'ai vu disparaître », raconte Clément Lelièvre, qui a vécu 4 ans à Montréal. Cette dernière a été en salle d'opération pendant de nombreuses heures dans un hôpital de l'arrondissement de Queens jusqu'en début de soirée. « Je suis très heureux pour Solange, que je ne connais pas personnellement, mais je l'ai trouvée tellement sympathique. Une fois l'avion immobilisé, les passagers sont tous restés calmes et se sont entraînés pour sortir par les ailes de l'appareil. Je retiendrai que tout le monde a été exemplaire. » Et ça fait aussi la une, cette tragédie aérienne du Journal de Montréal d'aujourd'hui. On voit aussi en photo le Québécois Antoine Forêt, qui était le commandant du vol d'Air Canada au moment où un camion de pompiers se trouvait par erreur sur la piste d'atterrissage. Et on écrit, c'est Marianne Lafleur, Antoine Lacroix et Frédéric Giguère qui s'occupent du texte à propos de cette tragédie. La douleur est vive chez les proches du jeune pilote passionné qui a perdu la vie dimanche soir dans une violente collision entre un avion d'Air Canada et un camion de pompiers, lui qui n'a eu aucune chance pour éviter l'impact. Hélas, la collision était inévitable, a laissé tomber Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Dimanche, peu avant minuit, le bombardier CRJ-900 de la division régionale d'Air Canada Jazz Aviation a percuté de plein fouet un véhicule de pompiers alors qu'il amorçait son atterrissage à l'aéroport La Guardia à New York. L'impact d'une rare violence a tué sur le coup le pilote Antoine Forêt, 30 ans, de Coteau-du-Lac et son copilote Mackenzie Gunter. 41 personnes ont été amenées à l'hôpital, dont 9 qui ont subi des blessures plus graves. Je lui avais parlé il y a quelques mois. Il était tellement fier et content d'être rendu pour Air Canada. Ça a toujours été son but, raconte au Journal de Montréal et au Journal de Québec Marisol Tremblay, qui a côtoyé Antoine Forêt lorsque ce dernier travaillait pour Air Saguenay en 2019. Et puis, la une du Devoir, accident à LaGuardia, deux pilotes d'Air Canada sont décédés. Les autorités américaines et canadiennes coopèrent pour mener l'enquête sur l'accident du vol 8646 d'Air Canada Express. L'enquête se poursuivait lundi après que deux pilotes d'Air Canada sont décédés à l'aéroport de LaGuardia à New York dans une collision survenue dimanche soir entre un véhicule de pompiers et un avion transportant 72 passagers et quatre membres d'équipage. Autre titre à la une du Devoir, immigration, postuler au PSTQ, un parcours du combattant, même après avoir tiré le numéro gagnant au programme de sélection des travailleurs qualifiés PSTQ, les immigrants ne semblent pas au bout de leur peine. Plusieurs personnes invitées dénoncent l'angoisse causée par la lourdeur du processus et l'abondante paperasse demandée par Québec. C'est un stress permanent, dit Fabienne Gendrissiac, l'infirmière d'origine française, est venue travailler dans un CHSLD de Granby en 2023 après avoir été recrutée par le gouvernement du Québec. En janvier dernier, elle a eu la nouvelle tant attendue, le PSTQ l'invitait à postuler. Mais elle dit avoir déchanté lorsqu'elle a vu la quantité d'attestations à fournir, dont certaines lui semblaient totalement absurdes. On me demande de fournir mon diplôme et mon relevé de notes du lycée, qui est l'équivalent de votre cégep. Qui a encore ces relevés de notes du cégep, a demandé Mme Gendrissiac. J'ai 50 ans. Une fois invité, sauf exception, le candidat a 30 jours pour accepter et 60 jours pour fournir les documents exigé. Lisa Marie Gervais qui raconte l'histoire dans Le Devoir d'aujourd'hui. Et toujours à la une du Devoir, histoire québécoise, Honoré Beaugrand est désigné personnage historique. Il sera désigné personnage historique aujourd'hui même par le gouvernement du Québec. Un honneur posthume qui aurait fait plaisir à ce journaliste et politicien anticlérical de la fin du 19e siècle, qui aurait commandé un buste à son effigie pour décorer le salon de sa luxueuse résidence de Westmount. Il serait très fier, lance son biographe Jean-Philippe Warren en entrevue. Il n'y avait rien de plus extraordinaire pour lui que de recevoir des médailles. Un article très éclairant sur le personnage, lui qui a fondé la patrie en 1879 notamment, et dont les prises d'opposition polarisantes, ces prises d'opposition ne l'ont pas empêché d'être élu à la mairie de Montréal à la surprise générale en 1885.
J'aime bien quand l'hiver ressemble à l'automne. Ouais, je sais comment ça sonne. Je te jure, mes intentions sont bonnes. Avec tout le mal que tu donnes, faut bien que des fois on se laisse étonner. Non, mais le nombre de questions que je me pose. Et toutes les fois que je trouve aucune réponse. Ouais, la vie reste mystère. Façon d'avoir du fun, inventeur du condom et du gun. Seul au parc national sur mon téléphone. Je comprends fucking rien à comment tout fonctionne.
Robert Robert et sa chanson « Boost ».
Michel Potvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, est avec nous pour sa chronique économie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors aujourd'hui, les prix de l'essence, flambée des prix de l'essence.
Oui, probablement que tous les automobilistes l'ont remarqué à la pompe depuis quelques jours. Les prix sont très élevés. Ce matin, je voyais 1,88,9 pour chaque litre d'essence.
Oui, on s'approche du 2 $, hein?
On s'approche du 2 $. Puis j'ai fait des petits calculs pour vous. Je regardais le prix de l'essence depuis soit 1990 ou 2000, a augmenté un peu plus vite que l'inflation. Donc, l'inflation, l'indice des prix a été multiplié un peu plus que par 2 depuis 90. Le prix de l'essence, c'est plus fois 2,47. Donc, c'est un peu plus vite. Puis, on a à peu près le même phénomène depuis 2000. Donc maintenant, c'est très élevé, mais je veux dire, c'est quelque chose, c'est pas juste un événement. Quoique là, on a quelque chose, un petit pic, là. Ce que je voulais, par contre, mettre illustrer aussi, c'est que on a des prix élevés, mais dans les dernières années, on a connu des prix encore plus élevés en dollars d'aujourd'hui. Alors, à l'époque, peut-être que le prix du litre d'essence semblait un peu plus faible, mais quand on ajuste pour l'inflation, on a eu des périodes où c'était plus élevé. Pendant la crise financière, là, à l'été 2008, le prix du litre en dollars d'aujourd'hui est à 2,5. Aujourd'hui, on est à 1,88, donc 2 ou 17 cents de plus. Février 2013, là, c'était un peu durant le printemps arabe, il y avait des tensions au Moyen-Orient, le prix du baril de pétrole a augmenté, puis on a eu un prix de 1,97, toujours en dollars d'aujourd'hui, donc légèrement plus élevé qu'aujourd'hui. Puis enfin, peut-être le pire, c'était à l'été 2022, dans la foulée du début de la guerre en Ukraine, là, si on se souvient, il y a eu des crises énergétiques, notamment en Europe, mais ça nous avait touchés aussi. Et donc, au mois de juin, le prix à la pompe en dollars d'aujourd'hui a atteint le 2,37 $, ce qui est pas mal plus élevé qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est que le prix de l'essence dépend du prix du baril de pétrole. Puis le pétrole, il y a beaucoup de pétrole qui se situe au Moyen-Orient, qui est malheureusement une poudrière là, sur la planète. Il y a beaucoup de conflits. Puis aussi, on en retrouve en Russie. Alors, à chaque fois qu'il y a des conflits ou des tensions géopolitiques dans ces régions-là, le prix du baril de pétrole a tendance à augmenter. Puis nous, ben, on voit les effets là, lorsqu'on va mettre de l'essence dans notre voiture.
Oui. D'ailleurs, ben, il y a plusieurs personnes, on les voit dans les reportages, là, qui sont mécontentes, inquiètes. Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est une bonne question. Peut-être avant de dire ce que moi, je pense qu'on peut faire, je peux regarder certaines solutions là, qui auraient été avancées ou propositions avancées par d'autres.
Laisse ton char dans le garage.
Oui, ça, c'est bon. On va y arriver. Mais il y en a qui ont dit qu'on pourrait limiter la marge des détaillants. La marge des détaillants, c'est quelque chose qui est publié par l'Office de l'énergie. Là, au Québec, on regarde les prix, puis on infère la marge des détaillants. Mais c'est pas facile à faire puis à calculer. Donc, les calculs sont souvent imparfaits. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas vraiment les détaillants qui bénéficient des prix élevés. Quand le prix augmente comme ça, c'est pas le détaillant qui s'en met le plus dans les poches, c'est plutôt les producteurs. Là, eux, le pétrole qu'ils vont chercher dans le sol, tout d'un coup, il vaut plus cher et puis leurs coûts de production n'ont pas nécessairement augmenté. Là, si je mets à part pour certains là, qui doivent passer par le détroit d'Ormuz là, pour le transport, mais les coûts de production ne changent pas beaucoup, mais tout d'un coup, ils peuvent vendre leur baril 30 %, 40 % plus cher. Donc, c'est plus eux qui s'en mettent dans les poches que les détaillants. Donc, taper sur les détaillants ou essayer de limiter leur marge de manœuvre, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Est-ce qu'on pourrait limiter le profit des producteurs? Ça peut sembler une autre bonne idée, mais c'est qui les producteurs? Ce sont des grosses firmes internationales. Comment limiter leurs profits? Si jamais même si on trouvait un moyen, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ben, on va dire, c'est pas payant de vendre au Québec ou au Canada, on va aller vendre ailleurs. Il y a de la demande pour le pétrole ailleurs. Donc ça, c'est pas, je pense pas que ce soit une solution viable non plus. On a parlé de réglementer le prix à la pompe, peut-être mettre une fourchette, un prix maximal. C'est pas facile, ça non plus. Il faut essayer de trouver le bon prix. Puis si le prix qu'on met est trop bas, qu'est-ce qui va arriver? Des détaillants, ils trouveront pas leur compte parce que même si on limite le prix à la pompe, le prix du baril de pétrole, lui, il reste le même. Donc les raffineries payent ce prix-là, puis les raffineries, pour rentrer dans leur argent, bien, vendent l'essence aux détaillants à un prix qui leur permet d'être viable, qui permet aux raffineries d'être viables. Donc, les détaillants, ils font face à des coûts plus élevés. Si le prix est trop bas, ils vont fermer, puis là, on va avoir des pénuries puis des files d'attente. Donc, je pense pas que ça soit une solution non plus.
Bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, peut-être que vous n'aimerez pas ou des consommateurs n'aimeront pas la solution, mais je pense que en gros, rien, certainement sur le prix de l'essence. Pourquoi? Quand le prix augmente, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens vont tenter de s'adapter. Quand vous disiez tout à l'heure, rester chez soi, bien c'est ça, ça, c'en est une solution. On peut faire plus de télétravail. Puis on est mieux équipé pour faire du télétravail qu'on l'était il y a peut-être 10 ou 15 ans. On a eu la COVID, on sait ce que c'est. Donc, il y a moyen peut-être pour certains de dire, ben, je vais rester plus souvent à la maison, je vais moins prendre la voiture. On pourrait aussi, il faut aller au travail, peut-être ça va inciter, favoriser des initiatives de covoiturage ou encore se tourner vers notre bon vieux transport en commun.
Ouais. Ou la faire rouler moins longtemps aussi, hein?
Exactement. Ou moins vite, je dirais. Là. Promenez-vous ces autoroutes. Oui. On sait qu'il y a une grosse différence de consommation rouler à 90, 95 versus 120. Puis quand on va sur les autoroutes à 95, c'est sûr qu'on dépasse personne.
Mm-hmm. Alors, on a plus de pouvoir qu'on pense, finalement.
Exactement. Puis les prix sont là pour inciter les gens à trouver des solutions. Là. Si on limitait, si on plafonnait les prix, bien, les gens ne seraient pas incités à chercher des solutions alternatives. Puis ce qui arrive quand les prix sont élevés, c'est ceux qui ont des solutions de rechange, entre guillemets, relativement faciles. Ce sont eux qui vont s'adapter. Puis ceux pour qui c'est très difficile de s'adapter, bien, ils vont payer un prix plus élevé, mais ils ne se font pas, entre guillemets, prendre l'essence par ceux pour qui bien, c'est facile de s'adapter. Donc, si on réglemente les prix puis il y a des files d'attente, on n'aura pas ce résultat-là. Là. En général, on veut que ceux pour qui c'est facile de s'adapter, on voudrait que ce soit eux qui s'adaptent. Et puis la façon de le faire, bien, c'est de maintenir les prix au niveau où ils sont. Le prix, c'est un signal de rareté. Quand le prix augmente, ça nous dit « Hop, là, l'essence est rare ». Puis là, les gens qui sont capables de se passer, entre guillemets, de l'essence, bien, c'est eux qui vont s'ajuster. Donc, les prix élevés, ça permet de canaliser l'essence vers ceux qui la valorisent le plus ou ceux qui ont moins de solutions de rechange qui peuvent mettre en œuvre.
Oui. Alors, ce seront les plus fortunés qui vont pouvoir en profiter?
Bien, c'est un argument qu'on avance souvent. Là. On dit, OK, bien là, si on laisse les prix, c'est toujours les riches qui en bénéficient. Oui et non. Oui, effectivement, ceux qui ont plus les moyens vont peut-être en bénéficier. Mais peut-être non, parce que ça se peut qu'il y a des gens fortunés qui aient des alternatives viables et qu'eux décident de prendre moins d'essence. Puis si on ne laissait pas les prix augmenter, supposons qu'on plafonnait les prix, oui, on peut aider les gens moins fortunés, mais on aide aussi les gens plus fortunés parce que tout le monde va payer le prix moins cher. Donc, c'est pas, je pense pas que ça soit la bonne solution. Là. À chaque fois qu'on rentre des questions de distribution de revenus les plus versus les moins fortunés. En général, c'est pas une bonne idée d'agir par les prix parce que quand on agit par les prix, comme ici le prix de l'essence, si on le maintient artificiellement en bas, bien, tout le monde en profite, là, pas juste ceux qu'on veut aider. Alors, c'est pas une bonne idée de redistribuer, entre guillemets, la richesse là, ou d'aider les moins fortunés en jouant sur les prix. J'aimerais mieux des politiques plus ciblées si on va aller de ce côté-là, par exemple, augmenter le crédit pour la TPS, qui ça, il est ciblé vraiment vers les moins fortunés, ou le crédit de solidarité. Donc, en augmentant ces crédits-là, on aide les gens qu'on veut aider, mm-hmm. puis ceux qui ont les moyens de payer de l'essence le prix plus cher, puis qui veulent acheter de l'essence, bien, eux, ils vont payer.
Donc, selon vous, Michel, le gouvernement ne devrait pas intervenir sur le prix?
Non, il ne devrait pas intervenir sur le prix, puis peut-être trouver, s'il veut intervenir, trouver des façons qu'il joue sur le revenu des gens, des moins fortunés, comme je le disais, soit le crédit Solidarité ou le crédit TPS.
Parfait. Ben merci beaucoup pour cette chronique très intéressante. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine à compter de 10 heures. En studio peut-être, prochaine. Qui sait. À la semaine prochaine.
Oui. Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et j'écoutais longtemps couler l'eau des fontaines. Et j'écoutais le vent chanter infiniment. Vague de quiétude et de paix d'aussi loin que je me souvienne. L'enfance est un immense océan. Et je rêvais longues années, longue indolence, où rien ne se passe, mais où rien ne s'oublie. J'allais sereine et sans connaître le moindre feu d'une absence. Ce n'est qu'en te croisant que j'ai su, que j'ai compris. J'attendais ton regard pour expliquer enfin pourquoi de ces au revoir à tout ce long chemin. Les jeux, les mauvais courants. amant d'avant. Il y a bien des vies qu'on nourrit d'études ou de sciences. J'y pensais bien de temps en temps, en écoutant le vent.
Tiré de l'album 2, c'était Céline Dion. Céline Dion is all coming back. C'est le titre de la chronique d'Hugo Dumas. Ce n'est plus qu'un rêve. Les Parisiens se sont réveillés lundi avec une titillante et intrigante campagne publicitaire qui pointe en direction du grand retour sur scène de Céline Dion dans la ville Lumière. Partout dans la capitale française, plus de 250 affiches reprenant les titres de succès de la diva québécoise sont apparues. À des endroits névralgiques et achalandés, Pour que tu m'aimes encore, My Heart Will Go On, S'il suffisait d'aimer encore un soir ou Power of Love. Ces mystérieux panneaux ne dévoilaient rien d'autre, pas de date, pas de concert, pas de photo, rien, que des mots imprimés en lettres attachées et tirés du vaste répertoire anglophone et francophone de Céline Dion. Cette offensive publicitaire ne relève pas du hasard. Après 6 ans d'absence sur les planches, Céline Dion rebrancherait son micro avec fil, bien sûr, oui, parce que Céline chante avec un micro avec fil, en septembre et en octobre pour une courte série de spectacles à Paris, la Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe avec sa capacité maximale de 40 000 places. L'interprète de 57 ans y offrirait 2 spectacles par semaine pendant près de 2 mois, selon les informations qu'a obtenues Hugo Dumas. Autre rumeur persistante qui n'a pas été confirmée par son équipe, en direct de la Tour Eiffel, Céline Dion annoncerait le lundi 30 mars, le jour de son anniversaire, la mise en vente des billets de ses nouveaux concerts parisiens. C'est donc à suivre. Plusieurs personnes seront aux aguets et les billets vont s'envoler comme ça.
J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira des leçons. Ah non, ah non, ah bon, tous les pour le pardon. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira des leçons. Ah non, ah non, ah bon, tous les pour le pardon. Je resterai le fantôme. Faisais un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser trace sur le béton. Micro dans les mains, j'en guérisine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon, tous les pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon, tous les pour les parents. de vie normale. Me cèdent parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. Décèvent parfois sa part en ton mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage? Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge? Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller.
Louange et sa chanson Pigeon.
Une nouvelle série sera présentée sur Ami Télé dès ce soir. Nous sommes le 24 mars aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. La série documentaire s'intitule L'âge des possibles. J'ai eu la chance d'observer, de regarder, de visionner deux épisodes et vraiment j'ai été enchantée. C'est une série documentaire qui est animée par la para-hockeyeuse Raphaëlle Tousignan qui agit comme animatrice mais surtout comme confidente. Raphaëlle est au bout du fil. Bonjour Raphaëlle.
Bonjour.
Merci d'être là.
Bien, merci à vous de l'invitation.
Et puis, Raphaël, dans le studio, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Romain.
Oui, allô, Romain.
Allô.
Alors, Raphaël et Romain, ben, avant de plonger dans le vif du sujet, là, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas du tout, présentez-vous, Raphaël, d'abord en quelques phrases. Là.
Oui, donc comme vous l'avez mentionné, je suis joueuse de para-hockey, membre des équipes nationales. Moi, je suis amputée aussi de la jambe droite due à un ostéosarcome quand j'avais 10 ans. Puis ça a vraiment changé ma vie. Puis ça, j'ai mon natation à l'adolescence, donc j'ai dû apprendre comme Romain et tous les autres adolescents de la série à surmonter les défis de l'adolescence, mais aussi ceux qui viennent avec l'adolescence en général.
Romain, vous êtes arrivé ici en fauteuil roulant?
Oui, effectivement. Moi, c'est Romain, j'ai 17 ans. Je suis atteint de l'amyotrophie spinale de type 2, ce qui fait que je suis en fauteuil roulant, motorisé dans la vie de tous les jours. Mm-hmm.
Parce que ce handicap-là fait en sorte que vous n'avez pas de force musculaire?
Oui, exactement. C'est une réduction des forces musculaires en général dans tout le corps, ce qui fait que je sens tout mon corps, c'est juste que j'ai pas assez de force pour me maintenir debout.
Oui. Est-ce que c'est une maladie dégénérative?
Oui. C'est compliqué à dire. C'est que, techniquement, oui, ça l'est. C'est plus au niveau pulmonaire au fil des années que ça va être vraiment.
Se détériorer?
Oui, exactement. Okay. C'est vraiment plus impactant au niveau pulmonaire parce que c'est le muscle, un muscle qui est assez important. Donc, c'est ça, mais c'est dégénératif, mais pas tant que ça.
Bon, d'accord. C'est encourageant d'une certaine façon.
Ouais.
Et puis, en ce qui concerne les poumons, est-ce que vous pouvez faire des exercices pour les maintenir plus en forme?
Ouais, tous les jours, en fait, j'en fais.
Ouais.
C'est vraiment pour prévenir certaines... surtout que moi, je suis vraiment plus... j'ai un système immunitaire très faible, donc ça fait que je suis vraiment plus facilement. C'est vraiment plus facile pour moi d'attraper
toutes sortes de virus.
Exactement, toutes sortes de virus. Et ça peut très vite dégénérer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une pneumonie qui commençait seulement d'un petit rhume de printemps. Puis ça s'est vraiment détérioré quand même assez rapidement. Donc, c'est ça. C'est ça le pire qui peut arriver, mm-hmm. en fait.
Donc, il n'y a pas de risque à prendre. Là. Il faut,
ouais.
faut être aux aguets toujours.
Exactement.
Ouais.
Ouais.
Mais vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui,
oui.
un beau teint. Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est une question que je pose à vous deux. Là. Mm-hmm. D'abord, vous, Raphaël, qu'est-ce qui vous a donné envie d'embarquer dans ce projet-là, L'âge des possibles?
Bien, je trouvais que c'était vraiment un très beau projet. Je ne l'ai pas mentionné, mais je fais mon bac en enseignement au primaire. Donc, ça venait vraiment lier tout ce que je suis, en fait. Là. J'adore être avec les jeunes, les enfants. Je suis une leader sur l'équipe canadienne, fait que j'aime ça, avoir et pouvoir aider d'une certaine manière les autres. Puis c'est ça, j'aime bien être dans les communications. Donc c'est juste une super belle expérience. Puis honnêtement, j'ai tellement pas regretté mon choix. Ça fut tellement enrichissant. J'ai grandi cette expérience-là, de côtoyer les jeunes qui ont toutes des histoires aussi merveilleuses, mais c'est aussi des êtres qui sont tellement. Ils ont tellement une belle résilience. Ils veulent être, ils veulent avoir cette quête d'indépendance. Ils veulent vraiment être, ne pas dépendre de personne. Puis je trouve ça super intéressant. Fait que ça a vraiment été une belle expérience. Fait que j'avais toutes les raisons du monde de dire oui.
Est-ce que c'est la première fois que vous faisiez de la télévision? Parce que vous êtes excellente à la caméra. Vous passez, vous êtes lumineuse et naturelle. On sent aucune pression de votre part. Vous êtes bien préparée en tout cas.
Merci beaucoup. Oui, effectivement, dans ce rôle-là d'animatrice, c'était la première fois. Bon, avec le hockey, j'ai eu quelques tests et pratiques avant des entrevues pour diverses raisons. Mais oui, c'était la toute première fois, donc je vous en remercie.
Et puis Romain, vous, est-ce que vous avez dit tout de suite oui? Comment vous approchez?
Bien, en fait, c'était vraiment surprenant comme la façon dont ils m'ont approché. Bien, dans le fond, c'était celle qui a amené l'idée à M-Télé. C'était la mère de l'ami à ma sœur. Donc,
histoire de famille.
Oui, exactement.
La mère de l'ami de votre sœur.
Oui, donc okay. Dans le fond, l'ami de ma sœur, sa mère, c'était celle qui a amené l'idée à M-Télé, celle qui a monté le projet de...
Monter le projet dans le sens qu'elle a fait le montage?
Non, pas le montage. C'est elle qui, genre, a fait les démarches pour amener l'idée, si j'ai bien compris. Okay.
Est-ce que vous vous souvenez de son nom?
Non, mais c'est...
En tout cas, on la salue.
Oui, c'est ça.
Elle va se reconnaître.
Oui. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, moi et mes soeurs, on est très proches. Puis, quand son amie est venue à la maison et qu'elle a vu que, genre, vraiment, j'ai beaucoup de facilité, mais j'ai je suis quand même assez...
À l'aise
avec mon handicap. Et du coup, elle a approché sa mère pour lui dire... Peut-être que ça pourrait être intéressant de demander à Romain s'il voulait participer à l'émission. Et du coup, ils m'ont appelé et j'ai dit « ben oui, ça me tente vraiment ».
Vous avez bien fait. Vous avez apprécié, vous avez aimé votre expérience.
Oui, c'était vraiment super le fun. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ça parce que, honnêtement, tout au cours de ma vie, j'ai jamais vraiment eu de... Tu sais, à la télé, on voit jamais vraiment tant que ça le regard des personnes en situation de handicap et des minorités en général. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'amener cette approche-là à la télé.
Et Raphaël Tousignan, parce que Raphaël, c'est aussi le prénom de la réalisatrice, n'est-ce pas, de L'âge des possibles?
Oui, exactement.
Oui. Raphaël, je cherchais son nom à la réalisatrice. On est à la recherche de nom aujourd'hui, là. Je ne l'ai pas devant moi.
Merci Raphaël,
donc qui réalise cette série de 6 épisodes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur les épisodes qu'on va pouvoir découvrir à partir d'aujourd'hui sur Ami-Télé, Raphaël Tousignan?
Oui, dans le fond, chacun des épisodes, le premier va débuter avec l'histoire de William, Émilie et Romain. Puis... Dans le fond, dans chacun des épisodes, c'est des jeunes différents qu'on va voir. Donc, ça se peut qu'on revoie un jeune pendant peut-être 1 à 2 épisodes, puis après ça, on passe à un autre jeune et on le suit, dans le fond, nous, on les a suivis pendant environ 1 an. Donc, on voit toutes les grandes étapes qui se sont déroulées pour eux à ce moment-là. Puis, les jeunes ont des âges quand même assez variés. Fait qu'on parle ici d'entrée au cégep, on parle de fin de secondaire dans le cas de Romain, on parle d'entrée au secondaire dans le cas de William. Donc, on les suit vraiment dans des enjeux qui sont différents.
Mm-hmm. Il y en a qui sont au début de l'adolescence et d'autres pour qui l'adolescence est bien entamée.
Exactement. C'est super intéressant. T'sais, on aborde des enjeux, des thèmes comme l'amitié, l'amour, c'est les changements qui viennent avec la vie d'adulte, tout ça. Puis, j'ai adoré l'angle que, dans le fond, Raphaël a pris avec ça. Tu sais, on n'est vraiment pas dans la pitié. On est vraiment plus dans
pas du tout.
Montrer aux gens, en toute transparence, ça ressemble à quoi. Puis je pense que ça peut être vraiment très, très pertinent pour la société de voir ça. Ça va changer, je pense, leur œil, leur qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi leur vision de l'handicap. Donc, oui, je pense que c'est vraiment, s'il y a une série à écouter, je pense que c'est celle-là parce que c'est vraiment bien réalisé. Les jeunes, ça sont les grands transparents, avec vulnérabilité, puis ça fait vraiment un beau résultat.
Et c'est aussi intéressant parce que vous rencontrez les adolescents, les adolescentes, mais aussi leurs parents, leurs amis qui vous donnent leur point de vue sur les adolescents là, qui sont en vedette, si je peux dire.
Oui, vraiment. Ça a été vraiment super intéressant. C'est drôle parce que j'ai pu faire comme des parallèles avec comment moi, mes parents se sont sentis ou se sentent encore à ce jour face à mon handicap, face à la société, face au regard qu'ils sont portés sur moi. Puis j'ai reconnu mes parents à plusieurs reprises dans des discussions que j'ai eues avec des parents. Fait que c'était vraiment beau pour moi de voir ça puis de faire partie de ces discussions-là parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le parcours de mes parents parce qu'on l'oublie aussi des fois que oui, c'est le jeune ou la personne qui a un handicap qui vit avec tout ce que ça l'entoure, l'handicap. Mm-hmm. Mais les parents, des fois, c'est leur première fois ou c'est peut-être la deuxième fois, c'est la première fois qu'ils vont avoir un enfant avec un handicap. Ils ne savent pas nécessairement comment gérer la situation. Puis que les parents se sont livrés à nous puis vraiment expliqué comment ils se sont sentis, qu'est-ce que c'est de faire, comment ils essaient d'aider au meilleur de leur capacité leur enfant. C'est tellement beau, puis ça fait vraiment des belles discussions.
Oui, et ils se livrent en toute franchise. Là. Il n'y a pas de flagornerie, il n'y a pas de faux fuyants. C'est ce que j'ai apprécié de cette série. Là. Il y a une vérité. Et vous, Romain, vous êtes bien entouré dans la vie?
Bien, honnêtement, très bien, oui.
vous avez des sœurs?
Oui, j'ai deux sœurs et deux parents. Honnêtement, j'ai été très chanceux parce que tout le monde... Bien, j'ai été diagnostiqué très, très jeune, à 2 ans. Et ça a toujours été au quotidien comme ça. Donc, avec ma famille, on est très habitués. Et je pense que j'ai vraiment de la chance d'avoir des sœurs aussi, comment je peux dire ça, aussi ouvertes. Parce que vraiment, c'est elles qui m'ont éduqué. C'est pas mal elles qui m'ont éduqué sur la personne que je suis devenue.
Ah oui? Est-ce qu'elles sont plus vieilles que vous?
Oui, deux sont plus vieilles que moi. Et ça a toujours été des modèles pour moi parce que j'ai vraiment pu avoir... c'est un peu de elle que j'ai hérité le fait d'avoir autant d'autodérision, de m'accepter comme je suis. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir des sœurs comme j'ai. Et mes parents aussi, j'ai des parents qui ont toujours été très ouverts, qui ont toujours été là pour m'aider. Donc, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de chance.
Et dans votre parcours scolaire, là, vous en êtes où? Là?
Là, je suis à ma deuxième session de ma première année au cégep.
Vous étudiez?
En orientation et communication, plus en communication et médias.
Ah oui?
Donc, j'étudie plus... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus le domaine du cinéma. C'est ça, je...
Pour devenir réalisateur?
Ouais, ou... potentiellement réalisateur, oui? Exactement. Et c'est ça. Puis en plus, le tournage de la série, ça m'a un peu donné cet aspect-là de la découverte du cinéma. Donc,
vous avez pu vous travailler avec des gens aussi qui étaient sur le plateau. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Donc, ça vous a comme conforté dans votre envie d'en faire du cinéma.
Exactement.
Et vous, Raphaël, est-ce que vous êtes une joueuse de para-hockey à temps plein? Qu'est-ce qui vous occupe?
Oui, très bien.
À part, vous avez participé en tant qu'animatrice confidente.
Ouais.
Est-ce que vous préférez le titre d'animatrice ou de confidente? Parce qu'il y a un animateur ou une animatrice invisible dans cette série-là. Vous n'êtes pas toujours là à interviewer les adolescents, adolescentes.
Vraiment, je suis à l'aise avec les deux. J'aime les deux, honnêtement. Je suis paraqueuse à temps plein en ce moment, mais moi, longtemps, j'ai voulu aller vers le monde des communications. Bon, là, la COVID est arrivée, ça a un peu changé mes plans, puis j'ai pas pu expérimenter autant que je voulais avant de prendre ma décision, donc c'est pour ça que je suis allée en enseignement. Mais
il n'est pas trop tard.
Non,
en même temps, on a tellement besoin d'enseignants que c'est une bonne décision,
oui.
Là. Mais
oui.
vous pensez, j'allais dire, vous êtes tellement bonne. Moi, c'était une des révélations. Là, en regardant L'âge des possibles, okay. Je me disais, cette fille a un talent fou, une énergie aussi, puis un respect envers ses invités. Vous demandez toujours avec délicatesse, vous posez les questions avec délicatesse et vous demandez toujours aussi à la fin, là, est-ce qu'on peut faire un selfie ensemble? Puis on peut pas vous dire non, là.
Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié vos mots. Oui, j'ai vraiment pas écarté l'opportunité ou l'envie d'aller peut-être étudier même en TV ou poursuivre ma carrière d'animatrice, on va dire ça comme
oui,
ça.
Oui, parce que vous avez l'avenir devant vous, là, vous n'êtes pas vieille, là.
Oh non, 23 ans.
Combien?
23 ans.
Ah, 23, j'avais entendu 43, je dis ça se peut pas.
Non, non.
J'ai demandé le nom de sa crème de beauté. Alors, Raphaël, on entend souvent dire que l'adolescence, c'est l'âge ingrat. Et je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé d'appeler l'âge ingrat l'âge des possibles ou ça fait partie là, du concept de l'émission, là, parce que c'est plus positif quand on entend l'âge des possibles.
Mm-hmm. Non, ce n'est pas moi qui ai décidé du titre de la série. Mais par contre, j'aurais pas pu choisir mieux. Moi, à l'adolescence, j'ai accompli des choses qui se disaient impossibles dans ma carrière de sport, donc ma carrière sportive. Donc, ça j'adorais. J'ai adoré. Ouais. J'étais tout ouïe. Ça ne faisait que fonctionner dans ma tête. Je pense que c'est vraiment ça, l'adolescence. T'sais, malgré le négatif que ça peut emporter, ça peut apporter, toutes les mises en question que les jeunes ont, c'est là que le monde s'ouvre à nous. Hein. On peut devenir qui on veut, on peut faire le travail qu'on veut, on peut prendre la direction qu'on veut. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est ça que je trouve beau de l'adolescence, parce que si on est capable d'explorer un peu tout sans trop se mettre les pieds dans les plats, ben ça peut vraiment donner quelque chose qui va vraiment nous ressembler. On peut vraiment aller dans une direction qu'on va être fier. Donc oui, définitivement l'âge des possibles.
Romain, est-ce que vous trouvez que l'adolescence, c'est un âge où tout est possible finalement? Vous avez quel âge, si je peux me permettre?
Moi, j'ai 17 ans.
17 ans.
Mais honnêtement, oui, je pense que c'est très, très vrai. C'est sûr que c'est une période qui est assez mouvementée. Tout peut arriver honnêtement à l'adolescence. Puis je pense que ce qui en fait sa particularité, c'est qu'on est jeune, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Et,
des choix à faire.
Oui, c'est ça. Et c'est sûr que c'est facile de se planter avec autant de choix qui nous est offert.
Ouais.
Mais je pense que c'est le meilleur moment où on peut décider ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous tente réellement de faire. Et du coup, je dis, ouais.
Votre décision est prise à vous. Depuis longtemps que vous rêvez de cinéma?
Honnêtement, c'est pas juste ça que je veux faire. Moi, j'ai plein de projets dans la vie que j'ai vraiment envie de m'ouvrir au monde. J'ai pas envie de faire une seule chose. J'ai envie de faire énormément de choses. Mais je pense que le domaine du cinéma, c'est vraiment une occasion pour moi de montrer ma vision de la vie aux gens, mm-hmm. Aux autres. C'est ce que je pense, je l'ai dit d'ailleurs en entrevue, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai envie d'être dans le cinéma. C'est parce que j'ai envie de montrer ce que je vois avec mes yeux aux spectateurs, montrer comment je perçois les choses.
Partager votre vision du monde.
Exactement.
Ouais. Avez-vous un thème en tête pour votre premier film?
Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire dans le monde que je ne suis pas à court d'idées. Là.
Non, non, vous avez le temps de... Vous allez avoir l'embarras du choix.
Exact.
Et diriez-vous que la série est destinée aux adolescents, adolescentes en particulier, Raphaël?
Non, je dirais que c'est pas mal dédié à tout le monde. Je pense que ça peut être bénéfique pour des adolescents de la regarder, mais je pense que ça peut être autant bénéfique pour des parents, même les adultes qui sont désormais dans le milieu scolaire. Ça m'est pas arrivé souvent dans mon parcours, mais moi, à l'adolescence, j'ai côtoyé des gens, des enseignants plus précisément, qui avaient un certain malaise avec l'handicap. Donc, je pense que ça peut vraiment aider les gens ont juste se familiariser plus avec les handicaps, vu qu'il y en a tellement qui sont présentés dans la série, à comprendre les nuances de l'handicap. Puis après ça, ben c'est ça, je pense que ça peut juste aider à enlever des tabous, mm-hmm. à rendre les gens plus à l'aise. Puis je pense que c'est vraiment dédié à tout le monde. C'est tellement intéressant comme sujet.
Oui,
que...
c'est vrai. Et le but est atteint, en tout cas, il y a un bon bout de chemin de fait dans cette démarche ou cette volonté de montrer des personnes en situation de handicap, mais qu'on les voit d'abord comme des personnes plutôt que comme des personnes handicapées. Mission accomplie, l'âge des possibles à découvrir, à compter d'aujourd'hui sur Ami Télé. J'en parlais avec l'animatrice confidente, paraaccueilleuse, bientôt enseignante, Raphaël Tousignant, ainsi que Romain, 17 ans, qui est en studio. Romain, bien, je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent. Merci d'être passé.
Merci à
vous deux. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
écoutez Au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h à venir. Une chanson, un classique de Marie-Jo Thériault qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, qui s'intitule « Cocagne ». Et ensuite, on continuera avec, cette fois, la chronique « Livre » et Anne-Marie Aubin qui nous parle de deux titres. Elle est généreuse aujourd'hui.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La pluie qui tombe, la nuit qui traverse l'ennui et les draps de mon lit. Ma main qui tremble sur ton corps et puis des mots à fleur de peau, la nuit et c'est fragile. Des fois j'ai peur et je m'enfuis.
Cocagne, une chanson de Marie-Jo Thériault.
Et du Nouveau-Brunswick, on s'en va en Gaspésie pour la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène, on est dans l'Est.
Oui, alors aujourd'hui, deux titres. Vous avez lu pas mal ces derniers jours. L'embouchure par Myriam de Gaspé et Foule monstre de Simon Brousseau. Ce sont des titres, des livres qui sont parmi les finalistes au Prix des libraires du Québec dans la catégorie roman.
Oui, parmi les quatre finalistes dont on connaîtra bon, les lauréats bientôt. Alors, L'embouchure, c'est un premier roman de Myriam de Gaspé paru aux Herbes Rouges, 165 pages. Ce que ça veut dire, l'embouchure, c'est l'endroit où un cours d'eau va se jeter dans la mer, dans le fleuve, par exemple. Et c'est effectivement dans cet endroit-là où elle écrit le livre qui se trouve autour de, je sais pas, peut-être Rivière-du-Loup, bref, on sent qu'on est près du fleuve. Elle est dans le chalet de ses pense à être grand-parent qui avait un petit chalet là, qui utilisait uniquement l'été, et elle y va parce qu'elle veut venir à bout de ses rêves, de ses angoisses, en écrivant seule, isolée là-bas. Alors, Myriam de Gaspé, c'est une très jeune autrice qui est née en 92, qui vit maintenant à Trois-Pistoles. Donc, elle est près du fleuve aussi, et elle enseigne au cégep de Rimouski. Elle a fait des études en littérature à McGill. Ce roman, c'est une autofiction, finalement, mais dans lequel elle va intégrer des passages qui sont un peu théoriques parce qu'on a l'impression que c'est inspiré peut-être de ce qu'elle a fait comme étude à l'université et que toutes ces lectures théoriques s'intègrent un petit peu dans cette histoire-là. De quoi il est question? De la création. Parce que quand elle s'en va dans le chalet, c'est pour écrire. Et ce chalet-là, il est centenaire. Il contient donc l'histoire de sa famille, particulièrement du côté de son père. Et puis, bon, ben, il est question là-dedans de toutes ses troubles, ses angoisses, sa difficulté d'être elle-même. Et elle va chercher à cesser les rêves qu'elle fait où le fleuve s'emporte et finalement la bouffe, littéralement. C'est un roman très poétique, puis qui est bien écrit, puis qui est divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est qu'elle vit en appartement avec une coloc qui s'appelle Cassandre. Et puis un matin, elle se lève et puis elle aperçoit une personne qu'elle ne connaît pas. Puis en fait, elle se souvient tout à coup que Cassandre a prêté son appartement pendant son absence à une amie française qui s'appelle Mira. Et en la voyant, ben, elle va avoir un coup de foudre, carrément. Mais elle est incapable d'assumer ça à ce moment-là de sa vie. Alors, dans ce chalet-là, elle cherche à comprendre, en étant aussi en relation avec une psychanalyste, comprendre d'où elle vient, puis où elle va, puis où est ce problème qui lui empêche d'être elle-même, d'assumer sa réalité, ce qu'elle est vraiment, son identité. Alors, on suit tout ça à travers les séances d'écriture, les séances chez le psy et les rencontres avec des amis. Parce que là-bas où elle vit, ils ont comme un petit groupe d'amis, puis elle est aux études, la narratrice qui s'appelle Myriam comme autrice, et Mira, la jeune fille de France, est doctorante en musique, puis elle vient ici pendant l'été, et il va se créer quelque chose entre les deux, mais ça ne sera pas simple. On apprend qu'elle a une mère qui vit en Bretagne, qui étudie la peinture. Le père, on ne sait pas où il est, il n'en est jamais question. Donc, la relation avec les parents est compliquée, difficile et, je dirais, trouble. C'est beaucoup ça qui l'empêche d'être elle-même. Et puis, bon, ben, quand elle découvre ce désir qu'elle a pour cette personne-là, Mira, bon, ben, dans son malaise, elle ne sait pas comment faire. Puis, elle est gauche et puis c'est trouble un petit peu. Puis, ça se passe entre la France et le Québec, parce qu'elle va trouver l'excuse pour aller la voir. Elle va dire, je vais aller voir ma mère en Bretagne, qui va être très heureuse, puis j'irai voir Mira. Mais avec la mère, ça se passe très mal. Là, en Bretagne, c'est terrible. Donc, elle s'aperçoit que son problème n'est pas réglé. Puis tant qu'elle ne règle pas tout ça, d'où elle vient pour savoir où elle va, ben, elle ne peut pas vivre pleinement la relation, le désir qu'elle éprouve pour cette femme-là. Donc, c'est un très beau roman d'une primo-romancière à suivre, parce que tout ce qu'elle raconte dans sa thérapie, dans ses lectures, et puis sa relation fait penser à n'importe quelle relation qui débute avec quelqu'un où on est un peu gauche, où on est mal à l'aise, mais en plus, elle découvre finalement qu'elle est attirée par les femmes, puis elle cherche depuis quand elle a cette relation-là. Et puis ensuite, il y a toute la psychanalyse qui est autour de ça. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de matière, en peu de pages, mais c'est une belle écriture. Et puis elle dit, vu qu'il est question d'elle à peu près tout le temps, elle dit « j'écris pour l'emporter sur l'angoisse ». L'écriture, elle sent que c'est là, dans le petit chalet, qu'elle va le régler, qu'elle va aller au bout de ça. Elle dit « quand le Saint-Laurent ressurgit, c'est pour s'emparer de l'horizon en entier, l'air immobile malgré la houle. C'est un espace anachronique, une sorte de musée, elle parle du chalet, et dans cet endroit si statique, on ne peut ignorer que tout se transforme. C'est une épreuve d'humilité. Je suis venue jusqu'ici pour écrire. » Et puis là, ben elle, dans ses rêves, là, il y a toute une symbolique qu'on étudie avec la psychanalyse. C'est intéressant. Donc, une plume à suivre, un premier roman, L'embouchure de Myriam de Gaspé.
Oui, Myriam de Gaspé, qui a un très beau nom pour une écrivaine. Et
oui.
C'est publié aux Herbes Rouges. L'autre roman que vous avez lu s'intitule « Foule monstre ».
Oui, Full Monstre de Simon Brousseau chez Héliotrope de 225 pages. En fait, c'est le cinquième titre de Simon Brousseau qui est né à Québec et qui vit maintenant à Montréal. Mais c'est pas un roman, c'est finalement des dizaines de petits textes, comme des fragments. Oui, et puis c'est étrange.
Mais il est dans la catégorie roman, là, dans la course au prix du libraire. Ouais.
C'est comme un recueil de fragments, on dirait ça. Sauf que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, là, les textes. Alors, ça m'a un peu surpris et dérouté parce que c'est dans la catégorie roman, effectivement. C'est original. Chaque fragment, ça raconte un fait. Et puis, c'est associé à un individu qui est nommé. Donc, il y a une catégorie de prénoms là-dedans, là, une série, là, c'est incroyable. Et puis, bon, ben, qu'est-ce que c'est que ces récits-là? Ben, on a l'impression que c'est comme une espèce d'exercice littéraire que l'auteur s'est donné à lui-même, d'écrire en un certain nombre de mots, parce que c'est vraiment pas très long, les textes, régulièrement, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Alors, très attentif, il observe, il écoute et il raconte. Sur des sujets qui sont d'actualité, comme ce qu'on voit dans les journaux, puis d'autres qui sont plus personnels. Peut-être parfois on lit un texte et on dit « Ah oui, moi je pourrais mettre un nom là-dessus ». Alors, tous ces textes-là, bout à bout, n'ont pas de lien et on peut les lire lentement parce que ça ne sert à rien de les lire rapidement. Moi, je les ai lus sur plusieurs semaines. Et ça permet de penser, de réfléchir avec lui sur certaines réalités qui sont tout autour de nous ici, là, au Québec, là, par exemple, les nouveaux arrivants qui essaient de s'intégrer dans la ville ou en région. Un personnage, Henri, qui est outre-mangeur. Il y a ensuite Olivier qui a 17 ans, qui est aux soins palliatifs parce qu'il a un cancer. Yu Shen, qui est un Chinois de 15 ans, qui étudie au cégep, qui est accusé de plagiat, puis que finalement, il dit que, bon, ben lui, il a appris le français, il se débrouille bien, puis que tous ceux qui sont là seraient incapables d'apprendre sa langue aussi rapidement, puis qu'il est victime de je sais pas moi, d'un jugement par rapport à ce qu'il sait dire, ce qu'il sait faire dans son analyse littéraire, puis pourtant qu'il est premier de classe, bref, ça freine ses études, on est frustré. Il y a des femmes aussi qui vivent... doivent quitter leur logement à cause du problème du logement à Montréal. Le propriétaire dit « Bon, je vais le donner à mon fils, il doit partir. » Toutes des situations qu'on reconnaît, un joueur de hockey qui est initié par sa gang d'une manière violente et vraiment humiliante. Il y a des choses qu'on a déjà lues, qu'on a déjà vues ou qui ressemblent à des situations qu'on connaît.
Déjà vues et déjà lues?
Pardon?
Vous avez dit déjà vues et déjà lues?
Oui, parce que, bon, par exemple, dans le journal, moi, je l'ai lu, l'article sur le joueur de hockey qui ont été humiliés, il n'y en a pas rien qu'un. Alors, il s'est sans doute inspiré de ce qu'il a vu là, puis là, il a mis ça dans le cas d'une personne en particulier. Donc, oui, il y a des choses qu'on reconnaît. Et puis, ben, tout ça, ça fait parfois réfléchir, parfois c'est révoltant. Parfois, on trouve ça banal, on dit pourquoi. Puis parfois, c'est des personnages étranges. Par exemple, il y en a un que lui, il a vécu un amour, passion avec une femme sur un banc de parc. Ils ont pris un verre de mousseux. Fait qu'ils retournent sur ce banc de parc maintenant qu'ils sont séparés et qu'ils vivent très mal le deuil. Et ils avaient gravé son nom sur le banc du parc. Et là, il va se mettre à embrasser et lécher les lettres.
Ouais.
Alors, étrange, en effet. Manière de faire un deuil, finalement. Combien il y a de textes? J'en sais rien. Des dizaines. Il y en a énormément. Ils ne sont pas numérotés. C'est intéressant. Certains nous touchent plus que d'autres. Il faut les lire lentement, un à la fois. Et puis, certains sont touchants, d'autres font réfléchir, d'autres sont révoltants, d'autres nous paraissent plus banals. Oui, ici, c'est comme un fait divers. Alors, tous ces personnages, le défi, je pense que c'était de les raconter en peu de mots pour créer ensemble de tous ces personnages-là une foule monstre. C'est un peu le titre que l'on retrouve là-dedans. Et les textes font pas plus qu'une page. J'ai l'impression que 200, 250 mots, c'est la consigne qu'il s'est donnée. C'est original, très original. Mais comme je disais, ça ressemble plus à un exercice de style qu'à un roman, parce que ces textes-là ne sont pas liés, sinon font l'objet de réflexions que nous avons tous autour de nous, à voir les gens évoluer, une réflexion sur notre société, la consommation, le gaspillage, l'environnement, bref, toutes des questions intéressantes et qui l'a sans doute fait sur plusieurs mois pour se donner cette discipline d'écrire des textes. Ça s'appelle des micro-nouvelles ou des micro-récits pour raconter comme une histoire, mais en très, très peu de mots. C'est écrit de façon précise et puis ben, ça nous relate vraiment une situation actuelle et puis parfois c'est philosophique, parfois c'est réaliste. Bref, ce n'est pas un roman, je répète, même s'il est dans la catégorie roman nouvelle, mais des fois il y a des nouvelles, alors c'est peut-être pour ça qu'il est dans cette catégorie.
Ah, c'est catégorie roman nouvelle.
C'est ça.
D'accord.
C'est
Est-ce que le prix des libraires du Québec va être remis bientôt dans cette catégorie, dans les autres catégories aussi?
Oui, c'est au mois de mai, je crois, le gala, habituellement.
OK. Alors, vous nous parliez de Foule monstre par Simon Brousseau aux éditions Héliotrope. Et je rappelle aussi l'autre titre, L'embouchure par Myriam de Gaspé. Un grand merci, Anne-Marie Aubin. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Vous avez reconnu la chanson de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, mais là, c'est repris par Harry Styles.
Oui. Alors que l'enquête sur la collision entre un avion de jazz aviation et un véhicule d'urgence dimanche soir à l'aéroport LaGuardia de New York se poursuit aujourd'hui, un élément révélateur fait surface. Le camion impliqué était à la tête d'un convoi et a été le seul à ne pas s'arrêter. Signalé par quelques médias, mais passé inaperçu pour plusieurs autres, cet élément est confirmé par la vidéo de surveillance interne de l'aéroport diffusée sur plusieurs réseaux sociaux. On y voit en arrière-plan plusieurs véhicules d'urgence s'arrêter, gyrophare allumé, tandis que le véhicule de tête, dont l'indicatif radio est Truck One, continue son chemin. Cet élément apporte un nouvel éclairage au fil des événements qui ont mené au décès des deux pilotes du vol AC-8646. Selon la retranscription des échanges avec la tour de contrôle, le contrôleur a ordonné à une dizaine de reprises au conducteur du camion de tête de s'immobiliser sans que ce dernier réponde. Or, les autres véhicules avaient manifestement obtempéré. Ce fait n'avait pas été mentionné lors de la conférence de presse d'une vingtaine de minutes convoquée lundi soir par le Conseil national de la sécurité des transports, l'agence indépendante qui mènera l'enquête. « Nous sommes des enquêteurs de renommée mondiale, mais nous nous basons sur des faits », avait expliqué la présidente de l'organisme, Jennifer Omandi. « Si nous ne sommes pas encore en mesure de les vérifier, nous ne pouvons pas vous les communiquer. » Nous disposons de nombreuses informations, mais nous devons pouvoir les vérifier avant de vous les transmettre. Des experts américains en aviation sont arrivés à New York pour enquêter sur les circonstances de la collision qui s'est produite dimanche soir lorsque l'avion, qui transportait 72 passagers et 4 membres d'équipage, a atterri et percuté un camion de pompiers quelques instants plus tard. Par actualité, maintenant, l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, a rendu public hier la mise à jour 2025-2026 de son plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Cet exercice est conforme à l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Dans une lettre adressée au président-directeur général de l'Institut, Pierre Gerlière-Forêt, l'Office des personnes handicapées du Québec a salué la grande qualité de cette mise à jour. Il a aussi souligné 3 aspects dans lesquels l'organisation se distingue. L'élargissement de la consultation des personnes handicapées à des organismes en employabilité. L'INSPQ a contacté le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées afin de présenter sa mission et d'explorer avec des possibilités de collaboration dans le cadre de la démarche. L'exploration de pistes visant à améliorer l'accessibilité au programme québécois de dépistage du cancer du sein et la réalisation d'une publication portant sur l'accessibilité des espaces publics pour les femmes, notamment celles ayant des incapacités. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de l'Institut national de santé publique du Québec à promouvoir l'inclusion et à améliorer l'accessibilité de ses services et de ses productions. Le comité de direction de l'INSPQ a pris l'engagement de réduire de façon significative les obstacles à l'intégration à la société des personnes handicapées. Son plan d'action à l'égard de celles-ci identifie les principaux obstacles institutionnels et administratifs à l'atteinte de cet objectif, ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour les éliminer ou à tout le moins les réduire. Pour en savoir plus, vous consultez le bilan du plan d'action des personnes handicapées disponible sur le site web de l'INSPQ.
Elle est comme une
Vanessa Paradis, les initiales des anges.
Eh oui, LA, Los Angeles. Merci Mathieu, merci à vous d'être à l'écoute de Quotidien qui tire à sa fin en ce mardi 24 mars 2026. Dans Le Devoir, on parle du gouvernement Legault qui va de l'avant avec sa réforme de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la loi P38. En vertu d'un nouveau projet de loi, les intervenants et policiers qui interviennent auprès des personnes en crise disposeront de nouveaux outils pour prévenir les drames. Selon nos informations, le gouvernement compte modifier les critères à respecter pour hospitaliser de force une personne en crise, mais veut aussi améliorer les soins préventifs offerts à ces personnes. Les travailleurs de la santé ainsi que les policiers auraient davantage de marge de manœuvre pour intervenir sur le terrain, comme l'avait annoncé le premier ministre François Legault dans son discours de la rentrée à l'automne. La nouvelle loi a été inscrite au feuilleton jeudi dernier et doit être déposée ce mardi. Je vous souhaite une belle journée. Profitez du soleil pendant qu'il passe. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis. On se retrouve demain, 9h30.